Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, où nous avons le plaisir de retrouver en duplex Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro chez Pictet Wealth Management. Bonsoir Frédéric Ducrozet.
Bonsoir Nicolas.
Merci d'être avec nous en duplex à distance pour commenter cette prise de parole de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors assez peu de surprises sur la baisse de taux. Les marchés s'attendaient à une baisse de taux de 25 points de base. C'est effectivement le cas. On passe d'un taux de dépôt qui était à 2,25% à 2%. Mais on a eu aussi des révisions ou des annonces en tout cas sur les prévisions en matière d'inflation ou de croissance de PIB. Là aussi, pas beaucoup de changements de la part de la BCE, mais un discours quand même qui laisse entendre qu'on ferme un chapitre, celui de la reprise post-Covid, et on ouvre le chapitre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou en tout cas les États-Unis et le reste du monde, Frédéric Ducrozet.
Oui, dit comme ça, c'est pas très réjouissant. Elle l'a d'ailleurs noté, la présidente Christine Lagarde, à la fin de la conférence de presse, on passe d'une bataille à l'autre et il y a toujours quelque part un risque à prendre en compte. C'est une bonne chose d'avoir terminé la normalisation, cette première phase de la politique monétaire, d'avoir été capable, en position, de baisser les taux d'intérêt de plus de 4% à 2% aujourd'hui. Et 2%, c'est un beau chiffre rond qui est probablement proche du niveau neutre. Donc la BCE est neutre et peut effectivement donner le temps de voir ce qui va se passer. Malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que les risques sont plutôt encore orientés à la baisse. Elle l'a dit clairement. Et on est tous pareils, économistes, investisseurs, banquiers centraux. On fait face à cette incertitude de négociation commerciale entre les États-Unis et l'Europe. On reste à la merci d'un tweet, d'une décision, d'une inversion de décision qui remet tout en cause. Donc, la Banque Centrale Européenne, quelque part sans surprise dans ce contexte-là, ne donne aucune indication sur le prochain mouvement. La seule chose, peut-être, c'est que les marchés, dans ces cas-là, sont extrêmement sensibles à tout indice sur la prochaine réunion au mois de juillet ou celle de septembre. Et que le fait de ne pas en avoir eu, d'avoir semblé fermer la porte à une autre baisse de taux, sauf catastrophe, encore une fois, sur la guerre commerciale, a peut-être un petit peu déçu à la marge, mais finalement, pas de nouvelles majeures aujourd'hui.
Oui, c'est ça, parce qu'il y avait effectivement une attente du marché sur cette réunion de politique monétaire, mais d'une autre baisse de taux à venir, qui semblait un petit peu, effectivement, évidente pour le marché. Là, on sent que le scénario où la BCE fait une pause après cette baisse de taux décidée aujourd'hui, c'est un scénario qui prend de l'ampleur, Frédéric Ducrozet.
Oui, et d'une manière générale, c'est la même chose pour la Fed, c'est la même chose pour la Banque centrale du Canada et de la plupart des autres économies développées. Elles ont finalement deux scénarios en tête. Elles sont prêtes, ces banques centrales, à réagir. L'un, dans le cas de la BCE en tout cas, où elle ne bougerait plus les taux d'intérêt. Mais même ça, quelque part, le marché s'y attendait. Si les bonnes nouvelles s'accumulent, si on a un accord commercial, on abandonne l'idée de 50% de tarifs sur l'Europe, on est à nouveau bons amis et tout va bien. L'inflation est revenue à la cible, elle est à peu près à 2% à moyen terme. On pourra parler du court terme parce qu'il y a quelques aléas liés à l'énergie, au pétrole, à l'euro qui sont importants à prendre en compte. Mais au-delà, on est à 2%, ça fait un moment qu'on est à 2%, on est confiant de rester à 2%. La BCE n'a pas de raison de bouger. Et puis, il y a un autre scénario où les choses se passent mal, où au moins initialement, on a des tarifs douaniers plus importants sur l'Europe. Ça a un effet sur la croissance, la confiance. Et l'inflation peut être anticipée en tout cas, et la BCE doit baisser davantage. La moyenne pondérée de ces deux scénarios dépend de la probabilité distribuée à chacun des risques, et ça peut bouger à peu près tous les jours.
Alors la BCE a notamment donné aussi ses prévisions pour les années à venir. Alors on revoit un petit peu l'inflation à la baisse en 2026, mais on revoit aussi très légèrement la croissance du PIB à la baisse en 2026, Frédéric Ducrozet. Qu'est-ce qu'il faut ? Et en même temps, c'est un peu les seules choses qui bougent par rapport aux prévisions qu'on peut avoir ensuite pour 2027, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces évolutions de la BCE, Frédéric Ducrozet ?
C'est les seules choses qui bougent, les seules choses un peu intéressantes et tangibles aujourd'hui. En plus, techniquement, en juin, ce sont des prévisions qui sont collectivement produites par toutes les banques centrales nationales des 20 pays de la zone euro et la BCE elle-même. Donc, il peut y avoir des effets un petit peu compliqués. Mais là, c'était une surprise. On a eu tout de suite le chiffre au début, à la décision prise par la BCE de baisser les taux, d'une révision notamment de l'inflation, ce qui est vraiment la grosse surprise, à 1,6% l'année prochaine, en 2026. c'est bien en dessous de la cible hein, de 2%, qui est une cible maintenant symétrique. Donc, en théorie, sur ce chiffre-là, simplement, il faudrait encore baisser les taux d'intérêt. Mais immédiatement, Christine Lagarde a bien précisé que c'était l'effet quasiment uniquement des prix de l'énergie en baisse et d'un euro plus fort. Mais là aussi, c'est un peu plus subtil parce qu'un euro plus fort, dans les 10 ou 20 dernières années, c'est quelque chose qui avait tendance à être un problème pour la BCE. Et ensuite, on se pose la question si l'euro est fort aujourd'hui pour de bonnes raisons, notamment les anticipations peut-être de dépenses budgétaires en Allemagne, en zone euro, qui pourraient renforcer la croissance. Donc, tout ça est un peu plus compliqué que le simple chiffre de 1,6 voudrait le laisser entendre. Et encore une fois, je pense qu'il faudra en savoir un peu plus, y compris en termes de dépenses budgétaires en Allemagne, comment exactement cette relance va être mise en place dans les mois qui viennent.
Un tout petit mot encore de l'Europe, Frédéric, donc du coup, avant d'aller aux États-Unis. Il y a quand même aussi cette idée dans le discours donc, de la BCE de dire qu'il y a une incertitude sur les politiques commerciales menées à l'heure actuelle qui va peser sur l'investissement dans le privé, dans les entreprises, sur l'exportation, mais que ce sera compensé en Europe par une hausse de l'investissement public. Est-ce que c'est là où effectivement où il faut espérer trouver de la croissance pour les années à venir ?
Oui, et pas seulement. Il faut espérer que cette relance de la dépense publique entraîne un investissement privé, de la consommation, des perspectives de croissance potentielles hein, en hausse, c'est-à-dire sur les prochaines années, voire décennies. Ce n'est pas simplement que l'Allemagne dépense plus aujourd'hui dans la défense ou dans l'infrastructure, qui est une bonne chose. C'est plutôt que ça entraîne des effets indirects positifs aussi sur l'ensemble des composantes de l'économie. Et c'est un vrai changement. C'est un vrai changement parce que ce policy mix a jamais été bien calibré pendant 20 ans en Europe. Soit on avait un problème côté politique monétaire, soit un problème côté politique budgétaire, soit les deux. Donc là, c'est un vrai espoir, et encore une fois, que la BCE puisse se permettre de ne pas baisser les taux, pour des bonnes raisons. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et Christine Lagarde, du coup, comme Isabelle Schnabel également, membre allemande du directoire de la BCE, insiste sur ces aspects-là. Ça semble au quiche, mais je le répète, c'est plutôt une bonne nouvelle si ça se met en place dans les années à venir.
Frédéric Ducrozet, aux États-Unis, les discussions sont vives à l'heure actuelle sur la Big Beautiful Bill et on voit la courbe des taux aux États-Unis, notamment la partie longue de la courbe des taux qui laisse entendre un vrai stress, on peut le dire, sur la situation budgétaire aux États-Unis. Quelle analyse vous avez de la situation à l'heure actuelle ?
Alors, il y a des inquiétudes, c'est clair. On est passé de la guerre commerciale à cette dimension budgétaire. On est dans le temps politique aujourd'hui, parce que comme vous le savez, la première version de cette grande et beautiful bill est passée à la première chambre, va passer au Sénat, va sûrement être envoyée, doit être signée par le président. Il l'aimerait avant le 4 juillet, mais probablement plutôt dans le courant du mois de juillet. Et on s'attend pour notre part, en tout cas, à beaucoup de changements encore dans les calibrages, le chiffre, et peut-être aussi un élément de langage sur des aspects qui ont inquiété les marchés récemment sur cette fameuse section 899. Dans l'ensemble, moi je crois que les tensions sont finalement très contenues encore sur le marché obligataire et la partie longue de la courbe. Le taux à 10 ans des trésoreries américaines est seulement de 4,5-4,6%. C'est quelque chose finalement encore limité. On a déjà connu des 5% dans les deux années précédentes. On pourrait imaginer des tensions bien plus fortes. Il y a effectivement des signes de fragilité dans le marché. On commence, si vous voulez, à partir du moment où des observateurs commencent à s'inquiéter de certaines émissions de dettes et regarder des détails techniques dont tout le monde se fiche, pour être honnête, la plupart du temps, c'est qu'il y a un problème. Donc, quelque part, on sent que ça peut être plutôt un peu le calme avant la tempête. Si les choses sont confirmées en l'état, se passent mal, ou si ces projections d'augmentation de déficit se matérialise, où là, effectivement, le marché pourrait commencer à vraiment paniquer. Je crois qu'il y a un élément dans ce temps politique que le président va, du coup, je crois à l'instant encore par un tweet, mettre en avant, c'est qu'il y a l'aspect tarif. Les estimations du CBO aux États-Unis de ces fameux 2,4 trillions de dollars qui seraient ajoutés au déficit par cette loi sont en fait potentiellement compensées par 2,8 trillions de revenus en plus, hein, ça c'est toujours sur les 10 prochaines années, venant des tarifs. Si c'est le cas, ce qui me paraît très optimiste, le président va dire bah, « Écoutez, on réduit en réalité le déficit de 400 milliards, 2,8 moins 2,4, sur les 10 prochaines années, job done. » Je pense qu'on est au début, avec Musk également qui est dans le débat maintenant, et les sénateurs républicains notamment pourraient quand même, je pense, avoir leur mot à dire et peut-être recalibrer un certain nombre de ces baisses d'impôts, en l'occurrence qui sont au cœur du problème.
Un tout petit mot également, Frédéric Ducrozet, sur le dollar. Hein, le dollar qui perd près de 10% hein, depuis son pic de début d'année. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation actuelle? Est-ce qu'il faut s'attendre, effectivement, à voir le dollar continuer à perdre de la valeur sur la suite de l'année?
Je pense que oui, parce que ce sont des cycles longs et que si ce à quoi on assiste est effectivement un changement de régime plus structurel dans la location de capital de tous les investisseurs dans le monde, non pas vendre tous leurs actifs en dollars, mais de diversifier, de rééquilibrer un peu leur exposition en faveur de l'Europe, du Japon ou des pays émergents, alors c'est un phénomène qui peut durer. On observe par exemple des grands acteurs, hein, la real money vraiment qui fait bouger les marchés comme les fonds de pension en Europe, au Japon, en Norvège, qui se posent ces questions-là. Et je pense que ça, c'est la lame de fond qui explique vraiment que le dollar structurellement peut commencer à se déprécier. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'un niveau très surévalué au début de l'année. Il peut aussi se dévaluer pour des bonnes raisons, entre guillemets, si la croissance en Europe, en Chine et ailleurs s'améliore relativement aux États-Unis. Et dans ce cas-là, sur ce fameux smile du dollar, on a un dollar qui se déprécie pour de bonnes raisons. C'est dans ce cas-là, ce que je disais au début pour l'euro, pas tellement un problème. C'est même plutôt une bonne nouvelle pour le reste du monde aussi.
Merci beaucoup Frédéric Ducrozet de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Bourse dans Marché à thème. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Merci donc, merci à toutes et tous de nous avoir suivis sur Bismart for Change. Et je vous invite également à nous écouter en podcast si vous le souhaitez sur toutes les plateformes de podcast. À demain pour un nouveau numéro de Smart Bourse.